VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du lundi 7 août 2017. En direct de Washington, Idrissa Sidoulia et Anne Alberson. Nous commençons par les titres.
Au moins 12 personnes tuées hier dans une église du sud-est du Nigeria.
En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara promet d'investir davantage dans l'armée.
En Mauritanie, grande victoire du oui au référendum constitutionnel.
En République démocratique du Congo, nouveaux affrontements meurtriers entre Bantous et Pygmées.
Au Kenya, élection demain, en lice le président sortant, Uhuru Kenyatta, et son grand rival, Raila Odinga.
Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson veut que la Corée du Nord arrête ses tests de missiles pour signaler qu'elle est prête au dialogue.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Écho.
Pour l'instant, le journal.
Dans le sud-est du Nigeria, au moins 12 personnes ont été tuées hier dans une église. Pour l'heure, il n'est pas clair si c'est l'œuvre d'un ou de plusieurs assaillants. Jean-Roger Bion.
L'incident s'est produit au sein de l'église catholique Saint-Philippe d'Ozoubulou, près d'Onitsha. Garba Ouma, chef de la police de l'État d'Anamba, assure que la fusillade était l'œuvre d'un seul homme que la police recherche activement. Selon lui, un homme vêtu de noir et la tête couverte d'une casquette a ouvert le feu, tuant et blessant plusieurs fidèles avant de prendre la fuite. Par contre, Emeka Oumea Gbalassi, un militant des droits de l'homme, affirme que ce sont plusieurs hommes armés qui voulaient assassiner le fils d'un chef communautaire local. Pour leur part, des témoins ont affirmé que le nombre de victimes pourrait atteindre la vingtaine et que les assaillants étaient au moins 5. Dans le sud du Nigeria, majoritairement chrétien, les attaques contre les églises sont très rares, mais dans le nord, majoritairement musulman, les églises et les mosquées sont souvent ciblées par Boko Haram.
En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a promis hier d'investir davantage dans les forces armées pour mettre fin aux troubles qui secouent le pays depuis le début de l'année. Un important travail de reprise en main de notre armée est plus que jamais nécessaire, a déclaré le président Ouattara dans une allocution télévisée à la veille de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance. La Côte d'Ivoire a été secouée depuis janvier par plusieurs mutineries d'anciens rebelles intégrés à l'armée qui ont revendiqué et obtenu d'importantes primes pour baisser les armes. Le pays connaît aussi depuis quelques semaines une série de braquages contre des postes de police et de gendarmerie. Armes et argent ont été emportés lors de ces incidents par des hommes armés non identifiés mais agissant de manière professionnelle.
En Mauritanie, le oui l'a largement emporté lors du référendum constitutionnel, ce qui constitue pour le président Mohamed Oubd Abdelaziz une nette victoire que l'opposition refuse de reconnaître. Le taux de participation s'est élevé à 53,73% et 85% des votants se sont prononcés en faveur des changements proposés via ce référendum, notamment l'abolition du Sénat, a fait savoir dimanche la commission électorale. L'opposition radicale, réunie dans une coalition de 8 partis et organisations avait appelé au boycott du scrutin.
Les Kenyans doivent se rendre aux urnes demain pour des élections générales. La présidentielle est âprement disputée entre le chef de l'État sortant, Uhuru Kenyatta, et son grand rival Raila Odinga. Le point avec Idriss Fall.
Quelque 19,6 millions d'électeurs doivent choisir leur président, gouverneur, sénateur, députés et élus locaux dans près de 41 000 bureaux de vote. Plus de 180 000 membres des forces de l'ordre seront déployés. Il y a 8 candidats à la magistrature suprême, dont les plus en vue, Uhuru Kenyatta, le président sortant, et son grand rival Raila Odinga. La campagne s'est déroulée dans un calme relatif jusqu'à l'assassinat d'un responsable informatique de la commission électorale. En 2013, une partie du système électronique s'était effondrée, alimentant les accusations de fraude dès l'annonce de la victoire au premier tour d'Uhuru Kenyatta. Le leader de l'opposition, qui se présente pour la quatrième fois, affirme s'être fait voler la victoire en 2007 et en 2013, il a rejeté les résultats avant leur validation par la Cour suprême. De nombreux Kenyans sont déjà rentrés dans leur village pour accomplir leurs devoirs citoyens, mais aussi par crainte de violence post-électorale comme en 2007 où il y a eu plus de 1 000 morts.
Dans le sud-est de la République démocratique du Congo, nouveaux affrontements meurtriers entre bantous et pygmées. La société civile parle de plus de 50 morts, mais ce bilan n'est pas confirmé de sources officielles. Des détails avec Rosine Mounezero.
Modeste Kamanzi, un responsable de la société civile de la province du Tanganyika, affirme que les affrontements dans le village de Lambokilela, au nord-ouest de Kalemi, ont fait 55 morts, dont 45 bantous. Le gouverneur provincial Ngoy Kitangala tempère ses propos et dit avoir envoyé une équipe sur place pour évaluer les dégâts et donner un bilan fiable. De nombreux heurts interviennent entre des bantous Luba et des pygmétois dans le nord du Katanga. 4 personnes ont été tuées la semaine dernière à un village brûlé. En septembre 2016, 4 bantous ont été condamnés à 15 ans de prison pour crimes contre l'humanité. Souvent considérés comme des citoyens de seconde zone, les pygmées cherchent à faire reconnaître leurs droits et se heurtent souvent au refus de la majorité bantoue. En février dernier, un pacte de non-agression a été conclu sous la médiation de Kinshasa, des autorités locales et de la MONUSCO.
Toujours avec Rosine Mounezero, le Soudan prévoit de diviser en 3 unités son plus grand camp de réfugiés venus du Soudan du Sud. C'est après une vague de violence la semaine dernière.
Le camp d'Al-Waral, dans l'état du Nil Blanc, abrite plus de 50 000 réfugiés venus du Soudan du Sud. La semaine dernière, des jeunes ont incendié des bâtiments administratifs et pillé des entrepôts. Selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, les violences ont éclaté mardi après des informations selon lesquelles un jeune réfugié était mort en garde à vue. Au moins 78 personnes ont été arrêtées. Le ministre soudanais de l'Intérieur, Babikir Dina, affirme que les détenus seront jugés et que son ministère prévoit de diviser le camp en 3 unités, ajoutant que leurs emplacements ont déjà été identifiés pour permettre une meilleure surveillance. Environ 416 000 Soudanais du Sud sont arrivés au Soudan pour fuir la guerre civile qui déchire leur pays depuis décembre 2013. Ce conflit a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 3,7 millions de déplacés.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a déclaré aujourd'hui que la meilleure décision que pourrait prendre la Corée du Nord pour signaler qu'elle est prête au dialogue, c'est d'arrêter les tests de missiles. M. Tillerson a tenu ses propos à Manille, où il participe au forum régional de l'Association des Nations du Sud-Est Asiatique. Samedi, il avait souligné que le vote unanime au Conseil de sécurité de l'ONU en faveur de nouvelles sanctions contre Pyongyang, suite à ses tirs de missiles balistiques, envoie un message selon lequel toute la communauté internationale trouve inacceptables les actions nord-coréennes et s'attend clairement à une dénucléarisation de la péninsule coréenne.
Au Venezuela, les forces de sécurité sont à la recherche d'une partie des assaillants d'une base militaire dans le nord du pays, où selon le président Nicolas Maduro, l'armée a repoussé dimanche une attaque terroriste. Intervenant hier à la télévision, M. Maduro a déclaré qu'une vingtaine d'hommes avaient donné l'attaque très tôt dimanche matin. Selon lui, 2 assaillants ont été tués et 8 capturés. Les morts et les prisonniers ont été identifiés comme un officier déserteur et 9 civils, a-t-il affirmé.
En Colombie, un policier a été blessé dimanche dans une attaque contre la mission de l'ONU chargée de superviser le désarmement des forces armées révolutionnaires de Colombie, les FARC marxistes. La police soupçonne des dissidents des FARC ou l'armée de libération nationale, ELN guévariste, d'être à l'origine de cette attaque, selon l'AFP.
Des dizaines de migrants, majoritairement des Haïtiens craignant d'être expulsés des États-Unis, se ruent vers le Canada pour demander l'asile. Nous retrouvons Jean-Roger Bion. Nous y reviendrons plus tard. Pour la seule journée d'hier, plus de 150 migrants, majoritairement des Haïtiens, mais aussi des Yéménites ou des Somaliens, ont traversé la frontière canadienne à pied à proximité du poste de Lacol. Dans le sud du Québec, le flot s'est accéléré au point où les autorités canadiennes ont transformé le Stade olympique de Montréal en centre d'accueil de plus de 1000 places. Kathleen Veil, ministre québécoise de l'immigration, a indiqué que pour la première moitié de juillet, d'une moyenne de 50 demandes d'asile par jour, le rythme est passé à 150 demandes. Près de 60 000 Haïtiens avaient obtenu le statut de protection temporaire aux États-Unis après le séisme de 2010. Ce statut a été prolongé de 6 mois par l'administration Trump et doit donc se terminer en fin d'année, ce qui explique la ruée vers le Canada.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Echo et Kiabadou.
L'opérateur de téléphonie sud-africain MTN et le réseau social Facebook ont conclu un partenariat en Côte d'Ivoire pour permettre à leurs 14 millions d'abonnés d'accéder gratuitement à des sites concernant la santé, l'éducation, le sport et des offres d'emploi. La Côte d'Ivoire est le quatrième pays où s'est établi un tel partenariat, après le Bénin, la Zambie et la Guinée-Bissau. En Angola, le président angolais José Eduardo dos Santos a inauguré à Loka, dans l'ouest, le plus grand barrage hydroélectrique du pays et l'un des plus puissants à terme du continent africain. D'une capacité totale de 2070 MW, il est construit sur Kwanza, un fleuve qui se jette dans l'Atlantique. Son coût est estimé à 4,3 milliards de dollars et devrait être opérationnel d'ici 2018. La compagnie britannique Tullow veut creuser 13 puits dans la zone dite TEN entre le Ghana et la Côte d'Ivoire qui s'opposent toujours sur leurs frontières maritimes. Le Tribunal international du droit de la mer doit délimiter le nouveau tracé. Au cœur de la discorde, les gisements de pétrole offshore exploités par le Ghana depuis 2010. L'objectif de la compagnie britannique est de passer de 50 000 à 80 000 barils de pétrole par jour. Le trafic des jets privés poursuit son essor sur le continent. Au Nigeria, la compagnie suisse ExecuJet a connu une croissance de 13% sur son terminal de Lagos entre 2016 et 2017. Le trafic des jets privés continue sa progression en Afrique du Sud, au Kenya, en Angola et au Maroc.
À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Athlétisme, les championnats du monde à Londres et l'Ivoirienne Marie-Josée Tadlou termine deuxième sur le 100 mètres.
Elle a été devancée par l'Américaine Tori Bowie d'une seconde. La Néerlandaise Daphne Schippers remporte la médaille de bronze. La Jamaïcaine Hélène Thompson, championne olympique du 100 et du 100 mètres à Rio en 2016 et meilleure performeuse mondiale de l'année, a terminé à la cinquième place.
Chez les hommes, pendant qu'on attendait Usain Bolt, c'est Justin Gatlin qui a été sacré champion du monde.
Oui, c'était le dernier 100 mètres de son immense carrière. Le Jamaïcain n'a pas réussi son pari. Avec un chrono de 9 secondes 95 centièmes, Bolt termine seulement 3e derrière les deux Américains. Justin Gatlin, de nouveau en or, 3 centièmes de plus que le Jamaïcain, et Christian Coleman classé 2e.
Marathon, la Bahreïnienne d'origine kényane, Rose Chelimo, est devenue championne du monde.
Oui, avec un chrono de 2h27 minutes 11 secondes. Elle s'est imposée au prix d'un joli mano à mano devant la Kenyane Edna Kiplagat. Chez les hommes, c'est le Kenyan Geoffrey Kipori Kuri qui enlève l'or. Il devance l'Éthiopien Tamira Tola et le Tanzanien Alphonse Felisa Sumbu.
Football à présent et en Côte d'Ivoire, l'Africa Sport remporte la Coupe Nationale.
Oui, les Aiglons ont dominé en finale l'AS Standard 3-0 hier au stade Robert Champroux et décrochent ainsi leur 17e Coupe Nationale. Ils vont représenter la Côte d'Ivoire l'année prochaine en Coupe de la Confédération.
Coupe également au Burkina Faso, l'étoile filante de Ouagadougou remporte la finale.
Et c'est à l'issue des 90 minutes que Efo est sorti vainqueur de la 31e Coupe Nationale. Score 3-2 face à l'équipe des Forces Armées USFA. L'étoile filante de Ouagadougou remporte ainsi sa 13e Coupe du Faso devant le président de la Confédération Africaine de Football, Ahmad Ahmad, en visite dans la capitale burkinabé.
Au Ghana, c'est le classique Asante Kotoko, Heart of Oak, qui a marqué la 24e journée de la Première Ligue.
C'est le plus grand débit du football ghanéen et ça s'est déroulé à Kumasi. Au terme de cette explication, Asante Kotoko a été tenu en échec à domicile, score 1-0. Un point précieux pris par Asofok qui prend donc la 3e place avec 39 points. C'est Idouana Stars qui est premier au classement avec 44 points.
Direction le Cameroun avec la 25e journée du championnat.
Oui, et là aussi, on a eu droit à un autre derby. Et c'est l'Union de Douala qui sort vainqueur face à Canon Sportif de Yaoundé sur la marque de 1-0 au terme de cette 25e journée. Il faut noter la large victoire du leader Coton Sport face à Racing de Bafoussam 4-0. Le club de Garoua consolide donc sa place de leader avec 46 points devant Eding.
Football avec la finale du championnat arabe des clubs 2017, l'Espérance Sportive de Tunis, sacrée championne.
Le club tunisien a battu en finale hier à Alexandrie en Égypte les Jordanais d'Al Faisali 3-2 après prolongation. L'Espérance de Tunis repart donc de ce tournoi avec la somme de 2 500 000 dollars.
Bye-bye. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, les affrontements autour de Kidal entre la CEMA et la plateforme, deux groupes armés signataires de l'accord d'Alger de 2015, sont en train de gagner d'autres régions au nord. C'est le cas de Menaka, où des combattants de la CEMA, lourdement armés venus de Kidal, se sont installés après les affrontements d'Anéfis et de Tagalog. De Bamako, Kassim Traoré.
L'une des causes de la crise que traverse le Mali est la mésentente entre les Ifogas réunis au sein de la CMA et les Imgad qui sont membres de la plateforme à travers les Gatia. Les affrontements entre ces deux communautés de Kidal sont aussi à la base du blocage dans la mise en œuvre de l'accord d'Alger 2015. Betty Ag Akado, président de l'association pour la sauvegarde de la culture Bella.
Ces affrontements ont pour fondement, encore une fois, ces questions d'injustice, ces questions d'exclusion. Ce qui se passe entre Gatia, ou si vous voulez, ce qu'ils veulent appeler la plateforme et la CEMA, n'est que la résultante de la mauvaise gestion de cette question-là. Et cette question-là n'a jamais été prise par le bon mot.
Le gouverneur de la région de Kidal condamne les affrontements entre Ingad et Ifogas, Sidi Mohamed Ag Ishrach.
Ces affrontements, ils sont regrettables. Ils sont absolument regrettables. Et on n'a pas pu les éviter, à cause du fait qu'il y a beaucoup de va-t-en-guerre de deux côtés. Il y a des deux côtés des gens qui ne sont pas très sensibles au sort des populations civils qui veulent absolument en découdre détriment de la paix, je pense que c'est condamnable, quel que soit le côté d'où ça vient, mais ça ne doit pas nous décourager.
Pour ce qui est de l'arrivée des combattants de la CMA à Menaka, le 28 juillet 2017, elle a été faite de façon concertée avec les MSA. Mohamed Maïga, ressortissant de Menaka.
Donc ils sont rentrés, et de façon concertée, la plateforme qui était à Menaka, il y avait eu des renforts qui sont partis, d'autres à Semet, d'autres sont partis à Nafi parce qu'il y a des points stratégiques, et ceux qui sont restés là-bas, les gens qui venaient, ils ne peuvent pas tenir le combat avec ceci. Voici pourquoi la plateforme a replié sans le MSA. Le MSA, j'ai dit au départ qu'a réussi des menaces. Ils sont rentrés en vie comme un cortège de mariage.
Daouda Maïga, gouverneur de la région de Menaka.
Nous sommes dans une zone d'insécurité récurrente et chronique. Il faut être honnête. Nous sommes en présence de groupes armés signataires. Nous sommes en présence de groupes armés affiliés à d'autres groupes signataires. Mais nous avons également des dizaines et des dizaines de bandes armées incontrôlées. Nous l'avons vécu, arrive à grégariser suffisamment pour former des forces qui peuvent même s'attaquer à nos forces armées de défense, qui peuvent même faire des embuscades à des forces comme Barkhane. Ça veut dire que, dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord, nous sommes plutôt pressés de cette recomposition de la nouvelle armée avec les parties entre guillemets rebelles qui vont intégrer. Pour nous, il faut un coup d'accélérateur à ces différents aspects pour aller vite.
Le président de l'association pour la sauvegarde de la culture Bella trouve que l'accord d'Alger 2015 est loin des réalités. Tweti Ag Akado.
L'accord n'est jamais bien parti. Il n'a aucune bonne forme. Un accord imposé par les armes, un accord imposé par l'agenda d'une communauté internationale n'est pas bon pour nous les Maliens. Nous sommes un vieux pays, nous pouvons trouver beaucoup mieux que ça si on nous avait laissé nous asseoir et traiter notre problème. Tant qu'on ne va pas revenir sur nos propres forces, nos propres compétences, nos propres réalités, on va continuer à écouter ceci, à avoir peur de cela, ça ne marchera pas.
La mise en œuvre de l'accord d'Alger est aujourd'hui bloquée dans la région de Kidal. L'État qui souhaite le retour de l'administration n'a pas de solution. La communauté internationale et sa médiation jouent au silence radio. Entre-temps, les populations continuent de souffrir. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Bénin, depuis l'avènement du président Patrice Talon, vote de déchéance contre des maires, remise en cause de l'élection de certains conseillers communaux, et dernièrement suspension du maire de Cotonou, Léadis Soglo, sur qui pèseraient de lourdes charges. Depuis vendredi, cette affaire défraie la chronique, enflamme les réseaux sociaux et divise la classe politique béninoise, nous dit notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
Acharnement, gestion avec ruse et rage, ingratitude, violation des libertés et humiliation. Voilà quelques-uns des mots utilisés depuis vendredi par certains Béninois pour expliquer la situation ayant conduit à la suspension du maire de la ville de Cotonou. Tout est parti d'une audition du maire par le conseil départemental de concertation et de coordination. Ceci après que le préfet ait constaté de graves irrégularités dans la gestion du maire. À la sortie de l'audition, Léa Lissoglo s'est dit serein quant à la suite à donner au dossier.
dossier.
C'est une première depuis l'élection des maires et des adjoints aux maires que un maire soit auditionné dans le cadre de fautes lourdes qui lui soient reprochées. Étant donné que nous ne nous reprochons rien et que nous venons juste de prendre connaissance du dit collectionnaire, nous souhaiterions qu'on nous donne la possibilité d'y répondre par écrit, de voir avec notre administration les éléments de réponse. Nous avons eu, en l'espace de 8 mois, 4 audits. Les 3 premiers n'ont révélé aucune malversation. Nous ne comprenons pas l'acharnement dont nous sommes l'objet.
La suspension du maire intervient quelques heures après l'audition, censurata dans la nuit une perquisition au domicile du maire. Et c'est là que les militants et autres acteurs politiques se sont emparés du dossier, appelant le peuple à barrer la voie au gouvernement qui voudrait brimer les droits et libertés d'un citoyen. Rosine Soglo, députée et maman du maire, s'en prend violemment au chef de l'État qu'elle accuse d'être en train de tirer les ficelles dans l'ombre.
Talon se trompe de personne, il se trompe de... C'est pas Léadi qui veut, c'est moi que Talon veut. Alors, qu'il vienne me chercher, car qu'il ne lâchera pas mon fils, il mourra derrière lui, je le jure. Ou il me tue, ou c'est moi qui le tue.
Son époux, l'ancien président, ne sera pas du reste. Pour lui, les actuels dirigeants, en s'en prenant ainsi au maire, affichent leur volonté à réduire les libertés acquises à force longue lutte.
Il y a des organes dont c'est la fonction pour dire à ces nouveaux petits dictateurs que vraiment les temps ont changé, que ça leur plaise ou non, le peuple de ce pays est un peuple rebelle. Je l'ai dit à Talon, ça il a de la peine à se mettre dans ce, mais il le fera de gré ou de force.
Tellement les réseaux sociaux se sont enflammés, le domicile du maire envahi par certains acteurs politiques, que le ministre de la Justice est monté au créneau le lendemain pour expliquer la situation.
Ce n'était pas une procédure d'arrestation. Nulle personne n'a été placée en garde à vue. Alors que les événements s'y prêtaient, les circonstances s'y prêtaient. Il s'agit d'une procédure d'enquête policière. Rien n'a été fait hors le code de procédure pénale du Bénin. Nul n'a le droit de faire obstruction à une enquête.
Actuellement, le maire reste introuvable et son fauteuil est déjà occupé par son intérimaire qui pourrait lui céder la place dans 2 mois au cas où le Conseil des ministres n'aura pas décidé de sa révocation telle que prévue par la loi. Il faut signaler que le maire a eu droit à plusieurs audits et qu'il est accusé d'avoir mal géré les ressources financières de la mairie. Tous les regards sont tournés vers la justice qui se doit de trancher cette affaire dans laquelle le maire et sa famille clament innocence. De Cotonou, je n'ai plus à donner pour VOA Afrique.
Au Cameroun, c'est ce week-end que s'est achevé après 4 jours la toute première édition du Festival des musiques et danses patrimoniales du pays. Organisé par le ministère des Arts et de la Culture, l'événement a attiré un grand nombre de visiteurs et de très populaires groupes de danse traditionnelle du Cameroun. De Yaoundé, reportage de notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
Le patrimoine culturel du Cameroun en matière de danse, musique et tenue traditionnelle a captivé un large public sur le site du Musée national à Yaoundé. Au terme du festival, un sentiment de satisfaction générale. Professeur Raymond Assomban, directeur du Musée national.
Il y a au moins 4000 personnes ici. Il fallait faire ceci pour que les Camerounais comprennent qu'ils sont un et indivisibles. L'unité dans la diversité. Et c'était donc l'objectif de ce festival.
L'unité des Camerounais dans la diversité culturelle, oui, mais le festival a davantage été un rendez-vous pour se ressourcer aux valeurs traditionnelles pour plusieurs visiteurs du site du festival.
Il y a vraiment la manifestation culturelle d'un autre genre que nous ne vivons pas tous les jours.
Bah, je suis venu comme tout le monde pour découvrir le riche patrimoine camerounais et nous voyons de très bonnes choses et la culture camerounaise est extrêmement riche et elle mériterait à être bien connue.
Je suis là avec mes enfants parce que eux doivent voir de quoi est constitué cet ADN. C'est l'ADN, c'est ce qui fait quelqu'un et c'est donc très important pour la vie.
Les jeunes Camerounais sont aussi venus découvrir le patrimoine culturel d'antan. Certains n'ont pas caché leur fascination au regard du riche trésor culturel mis à découvert à l'occasion.
On a vu beaucoup de danse. La danse des bêtises, la danse
de plusieurs groupes de danse.
C'est la première fois que tu découvres cette danse?
C'est la première fois. J'ai bien aimé.
Ce que le Cameroun compte de meilleur dans l'art de la sculpture, des instruments de musique ou de la confection de tenues traditionnelles de danse a aussi fait l'objet d'expositions durant le festival. Parmi les exposantes, une originaire du Nord-Ouest, en zone anglophone du Cameroun, Princesse Boutigny.
Vous voyez la plupart des objets ici, là, ça parle de la musique. De l'autre côté, vous voyez les colliers de plusieurs qualités et de plusieurs couleurs. C'est ce qu'on porte lors du festival. Tous les sacs que vous voyez, on utilise ça pour aller dans les festivals. Vous pouvez regarder de l'autre côté, vous voyez les objets d'art. Vous voyez les femmes en train de taper, les hommes en train de taper, les sifflets et les costumes traditionnels.
Au total, les quatre aires culturelles du Cameroun ont été représentées au premier festival des danses et musiques patrimoniales, offrant un spectacle de soir au village, en pleine capitale, devant un public de citadins très admiratifs. Emmanuel Jeloutap, Yaoundé, VOA Afrique.
Le président de la Confédération africaine de football a achevé à Ouagadougou une visite de travail et d'amitié de 72 heures. Invité par le président du Burkina pour assister à la finale de la Coupe du Faso, Ahmad Ahmad a discuté à cette occasion du développement du football dans ce pays. De Ouagadougou, compte rendu de notre correspondant Issa Napon.
Le président de la Confédération africaine de football aura passé un séjour plein dans la capitale burkinabé. Ahmad Ahmad a apprécié, au sortir de l'audience à lui accordée par le président Roch Kabore, l'invitation faite à assister à la finale de la Coupe du Faso et échanger autour du développement du sport roi. Ahmad Ahmad.
J'ai été élu sur la base d'un programme. Et ce programme spécifie déjà mon engagement de coopérer avec les autorités politiques de notre continent. Nous ne pouvons pas développer le football sans une collaboration saine avec nos dirigeants. Et il faisait partie des premiers présidents qui m'ont invité à venir s'enquérir de la réalité sur place aussi, et surtout de la situation du football dans le pays.
Le président de la CAF a assisté à la victoire de l'étoile filante de Ouagadougou aux dépens de l'USFA qui n'a pas démérité en finale de la Coupe du Faso, rencontré l'empereur de Mossé et bouclé une séance de travail avec la Fédération Burkinabé de football dans une nouvelle vision qui l'anime.
On verra qu'est-ce que nous faisons avec les hommes, qu'est-ce que nous faisons avec les fédérations. On a déjà commencé, vous avez vu, on a promis qu'on va allouer à partir de maintenant des subventions, même si c'est symbolique pour la première fois, et après voir aussi de visu quels sont les différents projets de développement qui existent, et même avec la FIFA. Donc tout ça, il faut qu'on voit ensemble.
Dans l'agenda du patron du football africain, donc, les travaux avec la FBF, qui ne l'avait pas soutenu pour son élection à la tête de la CAF, mais avec laquelle les vues convergent, pointe Sita Sangaré, président de la Fédération Burkinabé de football.
Des décisions très courageuses ont été adoptées au cours du symposium de Rabat, et la visite du président Ahmad a servi de prétexte pour expliquer cela en long et en large aux membres du comité exécutif qui n'ont pas manqué, bien entendu, de réaffirmer leur entier soutien, leur entière adhésion à la vision du président Ahmad. C'est n'est qu'ensemble que nous pourrons porter notre football. Nous souhaitons qu'un pays africain remporte la Coupe du Monde et nous pensons que c'est possible grâce à l'ensemble des réformes qui seront entreprises ici et là.
Au terme de la finale de Dame Coupe, Ahmad Ahmad, qui prône le relèvement des standards d'organisation des CANs pour protéger et promouvoir davantage les footballeurs africains, note que rien n'est encore joué pour l'organisation de la CAN 2019 par le Cameroun.
Il y aura une visite d'inspection composée des experts et d'un cabinet d'audit spécialisé sans les politiques et qui va évaluer au Cameroun. À ce moment-là, on tirera les conclusions nécessaires. Le plan B, c'est une ouverture de procédure d'appel d'offres pour qu'il y ait d'autres qui participent.
La Fédération burkinabé de football ainsi que les plus hautes autorités burkinabées signent ainsi un engagement à accompagner la politique du président de la CAF. Reste maintenant à traduire toutes ces bonnes intentions en actes. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anne Albotson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.